Vous êtes au bon endroit car vous êtes sur le 94 FM, c'est l'heure de 3 en 1.
C'est beau, c'est agréable, moi c'est ma balade phare.
Nous entamons aujourd'hui notre périple en Bretagne, c'est une grande région française, c'est une région qui comporte combien de départements, monsieur ?
Il y a les villages.
Qui dit qu'on n'a pas de déboire ?
L'agriculture est en train de crever, sincèrement, toute production confondue, toute filière.
Venir de Paris, de Lyon ou de Bordeaux, tout le monde sait qu'à Rennes, il se passe quelque chose.
Bonjour à vous et bienvenue dans 3 en 1, votre rendez-vous d'information locale ou d'actualité, appelez-le comme vous voulez, vous êtes bien sur Canal B. Nous sommes de retour après une petite semaine de pause. Cette semaine, vous nous retrouverez lundi, mercredi et vendredi à 12h15, mais aussi en rediffusion les lendemains à 8h15. Aujourd'hui, au sommaire de cette émission, accompagner les autres lorsqu'on a nous-mêmes été touchés jeunes par un cancer, c'est ce que font plusieurs bénévoles de l'association Jeunes et Roses. On vous propose un entretien avec Julie Renaud, ambassadrice de l'antenne rennaise de l'association, qui nous parlera des actions du collectif qui sont plus complètes que de simples incitations au dépistage. 3 en 1 vous emmène faire un tour à la bricole solidaire de Chevenier, où des outils de seconde main et des récup de chantier trouvent une seconde jeunesse, non seulement pour l'artiste Sarah Luck, mais aussi pour le grand public. Mais tout de suite, place à l'info du jour. Votre info dans 3 en 1 aujourd'hui, eh bien, ce sont deux événements contre lesquels citoyens et citoyennes se mobilisent en Ille-et-Vilaine. L'un se tiendra le 19 novembre prochain, la Nuit du Bien Commun, cofondée par le milliardaire d'extrême droite Pierre-Édouard Sterrin, aura lieu à Rennes. L'autre aura lieu le 8 novembre, c'est un banquet festif organisé par le Canon Français, une entreprise d'événementiel qui entend faire vivre le terroir dans des lieux d'exception et doit se tenir au château de Blossac à Govin. Ces deux événements font parler d'eux entre autres pour leurs liens, notamment financiers avec le milliardaire d'extrême droite Pierre-Édouard Sterrin, un homme d'affaires français ayant pour ambition de porter l'extrême droite au pouvoir à l'aide d'un plan politique très détaillé et déjà en cours, le plan Périclès. Dans les deux cas, des mobilisations citoyennes sont en cours d'organisation. Concernant le banquet du Canon Français, une réunion d'information publique aura lieu mercredi 5 novembre, donc dans deux jours, à 18h30 au bar L'Accueil Breton à Guichen. Rendez-vous est donné également samedi 8 novembre pour un Fest Days et un contre-banquet solidaire. C'est déjà en fait la deuxième mobilisation contre l'organisation de l'événement en Ille-et-Vilaine, puisque mi-octobre, le château de Pierret-sur-Sèche, devant accueillir le banquet, avait finalement fait machine arrière, notamment après qu'une pétition citoyenne contre sa tenue a rassemblé presque 700 signatures. Et concernant la Nuit du Bien Commun, une assemblée générale aura lieu mercredi 12 novembre à Rennes 2, dans le hall du bâtiment L à 18h, pour dessiner les lignes d'une mobilisation en vue du 19 novembre. À l'instant, Hit and Run de Formal Speedwear. C'est un morceau que vous retrouverez avec plein d'autres nouveautés dans les plages musicales de Canal B ces jours-ci. Nous Nous sommes le 3 novembre et c'est l'heure du bilan pour la mobilisation annuelle Octobre Rose qui a pris fin il y a quelques jours. Cette campagne internationale qui s'est peu à peu installée dans le calendrier des Françaises et des Français cherche à sensibiliser sur le sujet du cancer du sein et aussi à récolter des fonds pour la recherche. Faut-il en conclure que le besoin en sensibilisation ne diminue donc pas ? Effectivement, et c'est peut-être même le contraire, puisque le nombre de nouveaux cas de cancer a presque doublé en France ces 30 dernières années, selon une étude de Santé publique France de janvier 2023. Et le cancer du sein demeure le plus fréquent, avec plus de 61 000 nouveaux cas chaque année. Derrière ces chiffres un peu déprimants, une presque bonne nouvelle, puisque quand ils sont détectés tôt, en ce qui concerne les cancers du sein, ils sont de plus en plus soignés avec succès. Une tendance générale, en revanche, c'est que les cancers touchent des personnes de plus en plus jeunes. Ces cancers chez les jeunes sont souvent plus agressifs et plus difficiles à traiter, d'où l'importance de la prévention et du dépistage précoce. C'est de tout cela, mais aussi de conseils entre pairs, que nous vous proposons de parler dans l'interview d'aujourd'hui au micro de Manon Potier. Vous y entendrez peut-être parler d'aspects que vous ne connaissez pas encore au sujet du cancer du sein, car la personne que nous recevons a elle-même été concernée par cette maladie.
Nous recevons Julie, ambassadrice bénévole du collectif Jeunes et Roses en Ille-et-Vilaine, une association créée à Bordeaux en 2017 qui agit pour sensibiliser, prévenir et accompagner les jeunes femmes atteintes de cancer du sein. Julie, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, quels sont les besoins en termes de sensibilisation sur le cancer du sein auprès des jeunes femmes en France ?
Il y a surtout besoin en fait de rappeler qu'on est acteur et actrice dans son parcours de soins et notamment quand on va avoir des professionnels de santé. Donc en fait, on pose toujours le cadre d'apprendre à mieux connaître son corps. C'est aussi travailler main dans la main avec les professionnels de santé. Et c'est ça en fait qu'on souhaite faire passer comme message auprès des plus jeunes. Et auprès aussi des professionnels de santé.
Vous intervenez donc dans des lycées, dans des missions locales. Comment est-ce que vous faites pour faire en sorte que les jeunes femmes et jeunes hommes aussi, je suppose, se sentent concernés ?
Alors déjà, il y a toute la communication. On est très punchy, très flashy. On a aussi des noms. En fait, on appelle ça l'atelier Pouette-Pouette. Ça fait rigoler au départ et ça permet vraiment de détendre un peu l'ambiance. Et ensuite, en fonction de là où on est et de comment on sent l'ambiance, on va soit commencer par se présenter avec notre âge et le fait qu'on a eu un cancer du sein. Et parfois, on va commencer plutôt par des questions pour essayer de créer l'échange. Et ensuite, en fait, on essaie de concerner tout le monde. Tout simplement, donc on fait mixte, on fait des groupes mixtes, parce que ça aide les jeunes en fait à pouvoir venir, à pouvoir poser des questions aussi. Ils sont quand même plus à l'aise, même s'il y en a qui viennent à la fin poser des questions plus intimes. Et nous, on en a beaucoup dans l'association où c'est les conjoints qui ont trouvé chez leur conjointe. Donc c'est pareil, on les implique aussi comme ça.
Est-ce que vous avez aussi pour objectif dans vos campagnes de prévention d'évoquer tout ce qui est les causes de la maladie, notamment environnementales et hormonales, avec tout ce qui est perturbateurs endocriniens ou les pesticides par exemple?
Oui, c'est des choses pour lesquelles on se bat. On a notamment deux ambassadrices qui font front et qui essayent de faire monter les choses au niveau de l'Assemblée nationale notamment. Parce qu'il n'y a pas que des facteurs personnels, on va dire, de consommation d'alcool. Évidemment, c'est pas le mieux pour la santé. Mais on a parmi les jeunes femmes, donc on appelle les pinkettes, des femmes qui ont fait du sport régulièrement, qui n'ont pas bu d'alcool, qui n'ont pas fumé et qui se retrouvent malgré tout avec un cancer, qui n'avaient pas forcément d'antécédents familiaux non plus. Donc la question se pose en fait de ce qu'on ingère, de ce qu'on consomme et donc de la responsabilité plus globale au niveau de l'environnement, oui.
Comment est-ce que vous tentez de sensibiliser justement les plus jeunes ? Est-ce que c'est en leur apprenant à lire des étiquettes sur des aliments ou même sur des lessives par exemple pour essayer de leur faire comprendre ce qui peut être mauvais pour leur santé et leur corps ?
Alors on essaye déjà globalement de faire un message plutôt global et général sur le fait que les perturbateurs endocriniens sont assez importants dans tout ce qu'on a autour de nous. Qu'il ne faut pas utiliser n'importe quelle crème, n'importe quel maquillage, n'importe quel vêtement. Que c'est important de les laver quand on en achète des neufs, de les laver avant de les porter. Parce qu'il y a des traitements dedans. Déjà, on en a qui nous disent qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien. Donc quand on entend ça de jeunes femmes et de jeunes hommes qui ont 16-17 ans, ben, ça peut faire un peu peur.
Alors, pour rappel, les perturbateurs endocriniens, ce sont des substances chimiques qui modifient le fonctionnement des hormones.
On peut aussi parler du scandale des PFAS. Ça aussi, c'est un bon moyen parce que ça, ils en ont entendu parler. Et donc, c'est plus facile aussi d'aborder les choses en disant, ben voilà, ça, c'est quelque chose que vous pouvez éviter au quotidien. Mais on ne veut pas non plus dire qu'il faut s'empêcher de vivre. Mais on essaie quand même d'apporter des points d'alerte là-dessus. On leur dit, bah voilà, vous faire attention à ce que vous mettez sur vos cheveux, votre peau, enfin tout ça, c'est hyper important. Et puis après, c'est de dire, ben voilà, quand vous pouvez faire attention à votre alimentation, c'est pareil, c'est aussi important. Ça veut pas dire que vous pouvez pas de temps en temps déroger à la règle, mais ça veut dire que si au quotidien vous faites le maximum pour manger le moins pollué possible ou autre, ça peut aider à diminuer les risques, c'est sûr.
Est-ce que sur le terrain, vous vous rendez compte que certains publics sont plus ou moins sensibilisés que d'autres ?
Oui, nous on dit qu'on va vers les jeunes et les publics dits vulnérables, donc on va aussi dans les centres sociaux. Parce que financièrement, quand on est plus fragile, plus précaire, on n'a pas forcément, on met pas en priorité sa santé. Donc on est plus éloigné des professionnels de santé. Avec l'auto-examen mammaire, enfin de savoir le faire soi-même aussi, c'est un moyen de pouvoir alerter par la suite les professionnels de santé et juste en fait de recréer le lien qui a pu se casser aussi. Là, je parle de mon point de vue personnel, mais moi j'ai un rapport aux professionnels de santé avant la maladie qui était catastrophique, vraiment catastrophique. Et donc il a fallu réapprendre à faire confiance. Et si je m'étais pas suffisamment, si j'avais pas suffisamment connaissance de mon corps, je savais pas faire l'autopalpation auparavant. Si j'avais pas suffisamment connaissance de mon corps, ce qui s'est vu à l'échographie, palpation et à l'échographie ne se serait pas vu, puisque c'est moi qui ai dû montrer au radiologue où c'était, parce qu'il n'arrivait pas à trouver. Donc pour moi, c'est hyper important de pouvoir aller vers les publics qui sont les plus éloignés aussi des professionnels de santé pour revenir vers eux tout simplement pour les ramener vers le chemin de la santé et des professionnels de santé parce que certes j'ai été fâchée avec eux pendant longtemps mais j'en veux pas du tout à mes professionnels de santé actuels qui sont très à l'écoute avec qui on forme vraiment une équipe et qui a une collaboration donc mieux on connaît son corps et mieux c'est après avec la relation avec le médecin.
Donc là, on était sur le volet prévention et sensibilisation de l'association. On va ouvrir maintenant un autre volet de l'action de votre association, c'est l'accompagnement des jeunes femmes atteintes de cancer du sein, puisque le cancer du sein, il bouleverse profondément la vie personnelle comme la vie professionnelle des personnes malades. Quels sont les plus gros impacts du cancer du sein chez les jeunes femmes ?
Déjà, il y a le fait d'avoir des enfants en bas âge. Donc, il faut gérer le quotidien avec les enfants en bas âge. Il y a tout le volet sexualité, même si on a une sexualité qui dure toute la vie, mais se retrouver... Je donne un exemple, mais se retrouver avec des sécheresses... parce que du coup, c'est pas que cutané, c'est aussi au niveau des muqueuses. Du vaginisme, qui arrive très fréquemment. Heureusement, il y a des solutions qui existent, mais toutes les femmes ne le connaissent pas. Et tous les centres ne pratiquent pas forcément les solutions. Donc, c'est pas... la plupart du temps, ce n'est pas remboursé. Il va y avoir le retour au travail aussi, reprendre sa carrière professionnelle. Dans quelles conditions, comment, à temps plein, pas à temps plein. Enfin, voilà, il y a tout cet accompagnement-là. Il y a aussi tout ce qui est lié à la relation de couple, parce que ça change profondément le lien avec l'autre. Le lien avec soi aussi, beaucoup, parce qu'on change totalement et qu'on n'est plus la même personne après. Et il y a aussi le volet avoir des enfants par la suite, qui est aussi une question très récurrente et qui inquiète beaucoup de femmes.
Et comment l'association elle aborde ces sujets ? Est-ce que ça se fait... par des suivis personnalisés, des ateliers en groupe ou même des témoignages que certaines personnes peuvent partager.
Alors on a surtout misé sur le collectif dans l'association, parce qu'il existe d'autres associations qui misent aussi sur le personnel. Donc au niveau du collectif, il y a des visios qui sont proposés. C'est généralement les salariés de Jeune et Rose qui s'en occupent et qui font appel à des professionnels ou de personnes qui vont témoigner d'avoir eu un enfant après, comment elles ont abordé les choses avec leurs enfants, niveau sexualité, qu'est-ce qui a pu se réinventer aussi par rapport à tout ça. Donc ça peut se faire sous les formes de visio. Il y a aussi tout ce qui est podcast avec les pipelettes, où il y a beaucoup de sujets qui sont abordés. On a déjà toute une saison de fête et une deuxième qui est en train d'être diffusée. Et on demande régulièrement, en fait, aux pinkettes quel sujet serait important pour elles. Et après, c'est aussi abordé, en fait, on est national, donc on est avec le siège à Bordeaux, mais on a aussi également des antennes un peu partout en France, où justement on a des ambassadrices bénévoles un peu partout en France aujourd'hui. Et donc nous, bah, par exemple sur Rennes, mais sur l'Ille-et-Vilaine, on a un groupe WhatsApp sur lequel on échange et on peut aussi se retrouver, on peut aussi s'appeler. Moi je sais que généralement quand on reçoit un mail d'une femme qui est intéressée pour entrer dans notre groupe, je vais d'abord l'appeler pour lui expliquer ce que c'est généreux, ce que ça implique et tout ça, et qu'elle peut très bien intégrer le groupe WhatsApp, mais en sortir aussi si elle trouve que c'est trop. Et c'est un moyen en fait de pouvoir se donner des conseils non médicaux, mais des conseils, par exemple, bah moi pour mon enfant j'ai utilisé tel livre ou tel BD, j'ai été voir tel professionnel de santé, j'ai utilisé telle médecine alternative. Alors évidemment on part pas dans des choses totalement éloignées de la santé, on fait bien attention à ça, mais voilà, si on a un hypnothérapeute ou une réflexologue, ou enfin voilà, par exemple des acupunctrices ou acupuncteurs, ou notamment des sages-femmes acupunctrices, on se partage les infos justement pour gérer au mieux les choses.
Écoutez Kindness in a Cup d'Hélène Barbier, avec des paroles qui vous feront peut-être penser au sujet de notre interview du jour. Vous êtes toujours sur Canal B, nous sommes de retour en plateau avec Julie Renaud, ambassadrice bénévole du collectif Jeunes et Roses en Ille-et-Vilaine, une association qui accompagne les jeunes femmes atteintes de cancer du sein, le tout au micro de Manon Potier.
En 2025, vous mettez l'accent sur de nouveaux sujets comme la reconstruction mammaire, les démarches administratives ou encore la sensibilisation dans les entreprises. Qu'est-ce qui motive ces choix? Comme vous venez de dire que parfois ça peut être des personnes qui choisissent de parler de certains sujets, est-ce que c'est un sondage où vous demandez aux personnes qui sont atteintes de cancer du sein les sujets qu'ils veulent aborder, principalement les nouveaux sujets qu'ils veulent aborder sur l'année suivante, ou est-ce que c'est un choix fait par les ambassadrices de l'association?
Je pense que c'est aussi le fait d'être allé sur le terrain, d'avoir beaucoup de questions, notamment sur la reconstruction. Nous on en a eu beaucoup au mois d'octobre parmi les lycéens et lycéennes, et donc je pense aussi que c'est comme ça que ça remonte. Alors les sondages pour les thématiques qui sont abordées, ou les chevaux de bataille qu'on va faire dans l'année, c'est aussi parmi les ambassadrices, mais aussi en fait sur le compte Instagram et le compte Facebook, sur lesquels on peut faire des sondages et donc faire ressortir certaines thématiques aussi. On a remarqué aussi que en faisant de la sensibilisation auprès des entreprises, on touche aussi les parents et les futurs parents, donc de pouvoir toucher en fait c'est pas forcément la tranche d'âge vers laquelle on va se tourner, mais d'aller sensibiliser en entreprise, ça permet aussi que eux puissent véhiculer ce message auprès des plus jeunes, en fait. On veut essayer d'aller toucher un peu partout pour que, quand les personnes sont en âge de faire leur palpation, d'aller voir un professionnel de santé pour la palpation, mais aussi frottis et tout ça, et ben en fait qu'elles soient en pleine possession de leurs moyens et de connaître vraiment leur corps.
Puis il y a aussi l'après-maladie, avec tout un processus de reconstruction, la reprise du travail aussi. À ce stade-ci de la guérison, de quoi ont besoin les anciennes malades ?
Elles ont besoin de savoir quels sont leurs droits, notamment il y a encore du travail à faire sur tout ce qui est RQTH, donc la reconnaissance qualifiée de travailleur handicapé, parce que certaines ont peur de faire la demande par peur en fait que l'employeur soit au courant, sauf qu'en fait c'est à la personne de le dire si elle souhaite bénéficier de ce droit-là. Donc il n'y a pas, enfin voilà, il y a beaucoup de questionnements là-dessus. C'est très difficile aussi de passer le cap et de pouvoir dire qu'en fait on a un handicap qui est pas forcément visible, parce que notamment l'hormonothérapie, c'est pas juste un cachet à prendre tous les jours. Il y a des effets secondaires. Il y a des femmes qui le supportent très bien et qui arrivent à reprendre leur quotidien. D'autres où c'est plus compliqué. Et donc ça entraîne aussi une révision de comment faire son travail et donc de voir aussi avec l'employeur. Donc en fait, il y a cette inquiétude de « mais je vais revenir au travail, comment ça va se passer ? Est-ce que je vais être capable ?» Parce qu'il y a aussi tout ce qui est problème cognitif. On perd beaucoup le chemin vers nos connaissances, en fait. Le chemin a besoin de se refaire. Et donc, c'est pareil. Est-ce que je suis encore capable de faire ce travail? Est-ce que le stress va pas m'empêcher totalement? Enfin, voilà, c'est des questions qui se posent. Il y a des choses qui existent, notamment des ateliers faits par d'autres associations, mais aussi par Jeunes et Roses, où ça peut être des questions qui peuvent être posées. Et ouais, il reste encore beaucoup de choses à faire, mais les employeurs sont de plus en plus conscients quand même des choses. Et il y a des entreprises qui sont très ouvertes à organiser les choses pour que ça se passe au mieux, la reprise du travail.
Des séances de psy sont proposées à la fois aux jeunes femmes atteintes de cancer du sein, mais aussi aux ambassadrices de Jeunes et Roses comme vous, Julie. Pourquoi le soutien mental est-il essentiel à la fois pour les patientes, mais aussi pour celles qui les accompagnent ?
Parce que c'est pas anodin de gérer un groupe de patientes. Étant nous-mêmes patientes, ça peut faire revenir des choses qu'on a déjà connues. On a certaines pinguettes dans le groupe qui peuvent parfois avoir peur de venir dans le groupe par peur de voir des choses négatives et ce genre de choses. Il faut aussi apprendre à gérer pour que chacun ait le même espace sur ce groupe. Et ensuite, parce qu'on témoigne, on donne une partie de nous à chaque atelier. Et donc, il faut aussi pouvoir être prêt et prête psychologiquement à le faire. Et donc oui, si on a besoin, il suffit de le dire, et on a un suivi à côté pour pouvoir être accompagné là-dessus.
L'association Jeunes et Roses s'est implantée récemment en Ille-et-Vilaine. Quels sont les prochains projets que vous souhaitez développer dans le département ?
Alors, on a eu la chance en fin 2023 d'avoir un buste qui a été financé par le Rotary Bruce-Issé. Et là, on a eu une chance extraordinaire aussi. Le Rotary Bain de Bretagne nous finance un deuxième buste. Donc, ce qui va nous permettre d'avoir la possibilité de faire plus d'actions sur le territoire. On aimerait en faire plus, mais c'est pareil, il faut du monde. Donc, en octobre, on peut avoir des bénévoles avec nous, mais il faut forcément au minimum une ambassadrice qui a été formée à la palpation. On a envie de développer de plus en plus les ateliers, et si possible en dehors d'octobre, parce qu'en octobre c'est très chargé. Mais le reste de l'année, on a du temps aussi, et on a des possibilités de venir en entreprise, de venir dans les lycées, tout établissement scolaire, les facs aussi. On aimerait bien aussi toucher les facultés.
Eh bien, merci beaucoup Julie pour toutes les réponses à ces questions. Je le rappelle, vous êtes ambassadrice bénévole à l'association Jeunes et Roses sur l'antenne d'Ille-et-Vilaine.
Merci à vous.
Et merci Manon pour cette interview. Alors, bien connaître son corps, rétablir un lien de confiance avec les soignants et soignantes, des conseils entre pairs et de la sensibilisation sur les dangers des perturbateurs endocriniens, voilà tout ce que vous pourriez trouver auprès de l'association Jeunes et Roses. elle est artiste et elle travaille sur le lien entre art, matériaux et le réemploi. Sarah Luck promeut dans ses œuvres une certaine vision de l'art entre l'upcycling et la récup. Si cette façon de créer des œuvres et de faire de l'art n'est pas nouvelle du tout, le projet de résidence artistique qu'elle a contribué à créer avec la Bricole Solidaire et Emmaüs Terre à Chevigné l'est probablement un peu plus. Il y a une semaine, Canal B est parti à sa rencontre. Direction donc à la Bricole Solidaire, basée à Chevigné au nord de Rennes, pour une visite privée de l'endroit par l'artiste.
Et ben voilà, donc ici c'est la ressourcerie. Ben, j'ai fait juste un tour pour commencer. Donc ici, il y a des choses de l'extérieur, entre carrelage, le bois.
C'est au bord d'une départementale à Chevigné que l'on retrouve Sarah Luck à la ressourcerie La Bricole Solidaire, une recyclerie de matériaux d'Emmaüs Terre.
Ici, tu as tous les petits outillages, tu as des vis. C'est vraiment un paradis pour ceux qui travaillent. Pas dans le bâtiment, qui ont des réparations à faire chez eux. Je peux te montrer le coin du coup où je me suis installée. Moi, je suis artiste donc visuelle, je fais des installations collage, peinture, sculpture, selon les projets. Et en fait, je travaille à partir des matériaux de récupération.
C'est dans ce hangar à la structure rouillée que les compagnons d'Emmaüs Terre entreposent tous les matériaux et outillages récupérés que le grand public pourra racheter 40 à 70% moins cher qu'en magasin traditionnel.
Tout ce qu'on voit ici, c'est des choses que je peux être apte à utiliser dans mon travail. J'essaie de faire rencontrer des différents matériaux, avec le métal, le bois. Je peux faire sculpter le bois directement, ça dépend vraiment des projets. Donc c'est vraiment très très vaste. L'idée, c'est de faire avec ce qui m'entoure et m'inspirer vraiment avec ce que j'ai. J'ai fait tout le parcours Beaux-Arts à Rennes. Je suis d'origine allemande, mais j'ai fait l'école des Beaux-Arts à Rennes. Et du coup, j'ai très vite, à la fin des études, fait de la récupération. Et c'était dans une logique d'économie circulaire, mais c'était surtout aussi une source d'inspiration. Il y a beaucoup de vie ici, donc c'est vraiment convivial. Et du coup, il y a les compagnons, des bénévoles, les responsables. Et en fait, ça, c'est vraiment vivant. Et déjà, je suis dans cette ambiance. Et en plus, j'ai énormément de coups de main. Il y a aussi l'idée de... Je ne sais pas si on peut dire transmettre, mais en tous les cas, de partager ce moment avec eux.
Alors moi, c'est Jason. Je suis compagnon à l'assaut. Ça fait 2 ans. Quand il y a des découpes ou du ponçage, ou parfois aussi, si elle veut qu'on visse des trucs, on est crépreneur. Et c'est bien parfois d'apprendre, parce que ça fait du bien de changer un peu, ça nous sort un peu du quotidien.
On a co-écrit un projet pour le soutien intercommunal proposé par la ville de Rennes et Rennes Métropole pour les accueils d'artistes en résidence.
La ville de Rennes finance effectivement des résidences artistiques dans une logique de partenariat entre artistes et structures locales telles que la recyclerie de Chevigné. Les structures accueillantes travaillent sur des thématiques proches de l'univers esthétique ou les pratiques des artistes.
Faire aussi ce projet avec la Belle Déchette, l'Apricole Solidaire et moi en tant qu'artiste de l'art contemporain, c'était pour faire un pont entre la vie culturelle et sociale et du coup donner aux artistes de venir penser vraiment à la manière de consommer, acheter et voilà, construire des expositions.
C'était un reportage de Julie Beaufils pour 3 en 1 que vous écoutez sur Canal B. Les compagnons d'Emmaüs Terre et l'artiste Sarah Luck vous donnent rendez-vous ce samedi 8 novembre à 17h à la Bricole Solidaire à Chevigné pour la restitution de la résidence artistique de l'artiste. D'ici là, ne ratez pas mercredi 5 novembre dans la prochaine émission de 3 en 1 l'interview de Benjamin Guézigou qui est délégué syndical de la CGT au sein de l'hypermarché Carrefour Alma de Rennes. Il nous parlera des raisons qui ont poussé les salariés de l'hypermarché à manifester en octobre dernier et vous partirez une fois encore en immersion avec nous, cette fois pendant un cours de danse du Cercle Celtique de Rennes avec des invités surprises. Un featuring un peu spécial qu'on vous conseille de ne pas rater. Et voilà, 3 en 1, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Julie Renaud, ambassadrice bénévole de l'antenne rennaise de l'association Jeunes et Roses, d'avoir été avec nous, ainsi qu'à l'artiste Sarah Luck et aux compagnons d'Emmaüs Terre de nous avoir fait découvrir la Bricole Solidaire. Aujourd'hui, l'émission vous était présentée par Nina. À l'interview, c'était Manon Potier et au reportage, Julie Beaufils. Vous nous retrouverez en rediffusion dès demain 8h15, puis on se retrouve mercredi à 12h15. Vous retrouvez les podcasts de l'émission et aussi toutes les autres émissions de Canal B sur notre site internet canalb.fr. Merci de nous avoir écoutés et bon début de semaine à tous et toutes.